RCF.
Cogiteo avec le père Jacques Versinger.
Bonjour tout le monde, bonjour père.
Bonjour Siv, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Alors aujourd'hui dans Cogiteo, on va parler d'un sujet qui fait pas mal causer ces derniers temps dans les médias et un peu partout. Mmh. On va parler d'intelligence artificielle. Mmh. Alors mon père, si je vous parle de ChatGPT, Midjourney, Copilot, Magisterium ou KTGPT, est-ce que ça vous parle? C'est non barbare.
À vos souhaits.
Alors, les différents noms que je viens de citer, ce sont des intelligences artificielles, hein, certaines permettant de générer du texte, d'autres des images. Maintenant, on peut même générer des vidéos, des musiques. Voilà, c'est un outil qui peut être à la fois formidable, mais aussi faire peur. Et donc, on va essayer un petit peu de discuter ensemble ce matin de cette technologie qui est en train de se déployer et voir si potentiellement, il pourrait y en avoir des utilisations dans nos quotidiens de chrétiens. Mmh. Alors, c'est un thème qui a été abordé par le pape lors de la 58e journée mondiale des communications sociales, hein, qui était en janvier 2024. Et il y a quelque chose qui était intéressant dans cet article et qui commence à nous poser question, c'est qu'il souligne qu'il y a de nombreux enjeux éthiques autour de cette utilisation de l'IA. Et du coup, ma première question, est-ce que d'un point de vue de la doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce que ces enjeux éthiques de l'utilisation d'un outil comme ça qui pourrait générer du texte ou des choses peuvent poser question?
Ça dépend de ce que ça génère, et ça dépend de la manière dont on considère ce que ça génère. Alors, quand j'entends parler d'intelligence artificielle, pour moi, évidemment, ça me pose un certain nombre de questions. On pourrait se demander, dois-je vraiment choisir entre la bêtise naturelle et l'intelligence artificielle?
c'est une très bonne question, en effet.
Bon, ceci dit, on peut avoir de la bêtise artificielle aussi. Le problème, évidemment, c'est d'abord de définir ce qu'on entend par intelligence et par nature ou artificielle, surtout quand on parle de l'être humain, parce que d'une certaine façon, ce qui nous caractérise, nous humains, c'est précisément qu'on est, on est constamment dans ce qu'on appelle artificiel. Ça vient de art, comme de artefact, artifice, etc. Mais c'est la fabrication comme artisan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où pour soulever une pierre, je prends un bâton, ou pour tuer un animal, je prends un caillou, je suis déjà dans l'artificiel, c'est-à-dire dans l'augmentation de mes moyens naturels pour atteindre le but que je me suis fixé. Hein? Donc, il faut bien comprendre que essayer de distinguer chez l'humain entre ce qui serait purement naturel et ce qui serait totalement artificiel, c'est déjà une opération assez compliquée. Et bon, les philosophes, à mon avis, ont de quoi s'occuper là-dessus, y compris les philosophes artificiels. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que l'artificiel, y compris les computers, donc c'est-à-dire nos ordinateurs, etc., ce sont des. Pourquoi est-ce qu'on a inventé des machines à calculer, hein, commencer par celle de Pascal? C'était pour faciliter la tâche de son père qui devait faire de la compta, etc., etc. Autrement dit, le problème n'est pas de fabriquer de l'artificiel, de ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle, pour ensuite voir ce qu'on va en faire, mais de se demander au fait qu'est-ce que je veux faire, et à partir de mes projets, de mes buts, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre. Et alors là, j'ai l'impression que dans une société qui est un peu marchande et un petit peu, eh bien, on crée de la chose. Tous les possibles sont explorés, puis après, on va voir ce qu'on pourrait bien en faire. C'est-à-dire que la réflexion éthique, morale, autrement dit sur les buts, les finalités, qu'est-ce qu'on va faire de ça, quelquefois court un petit peu derrière les possibilités. Hein. Mmh. Mais l'artificiel et les questions morales et éthiques que ça pose est le tout temps. Le jour où on invente l'arbalète et donc on peut tuer à coup sûr et sans forcément savoir bien viser, mais simplement sachant manier le truc, quelqu'un à 200 mètres, l'Église dit attention, c'est pas un truc moral sur un champ de bataille. Le jour où on invente la poudre à canon, voilà que n'importe qui peut, à la limite, tuer n'importe qui sans que la personne puisse totalement se défendre, bah, etc., etc. Donc, faut bien voir qu'il y a toujours la question derrière de l'utilisation d'un outil et du cadre de son utilisation, des limites de son utilisation, hein, les finalités. Et là, on est dans un domaine qui est de l'ordre du moral. Voilà, donc, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien comprendre que c'est de l'intelligence humaine se donnant les moyens de... Mais au fait, les moyens de quoi ? La question commence à être là.
Du coup, alors, j'ai fait une petite expérience pour justement parler de ce que justement on peut générer avec une intelligence artificielle que je vous ai remis un peu avant l'enregistrement de cette émission. En fait, je me suis amusé à aller voir deux intelligences artificielles et je me suis dit, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'Église pourrait faire ? Et je me suis dit, moi, je suis par exemple un prêtre, je suis un maître en mal d'inspiration pour rédiger une homélie.
Ouais.
Je me suis dit, est-ce que potentiellement l'intelligence artificielle pourrait répondre à ce besoin de ce soir-là, je suis en panne, j'arrive pas à rédiger une homélie, est-ce qu'elle peut la rédiger à ma place ? Et donc, j'ai fait une expérience où j'ai demandé. Donc, la première expérience, ça a été de demander à deux IA, ChatGPT, qui est donc l'IA générative de texte la plus connue, la plus répandue, et Magisterium, qui est une IA plutôt orientée justement qui se base sur des bases de données et des éléments plutôt orientés chrétiens.
Ouais.
Et donc, j'ai demandé aux deux, la première expérience a été de demander aux deux de me faire une homélie du texte du jour.
Oui.
Bon, là, ça a été, on va pas trop parler de cette expérience-là parce que ça a été un fiasco. Ils ont pas du tout, tous les deux, n'ont pas du tout trouvé le bon texte qui était le texte du jour où j'ai fait l'expérience.
Oui. D'accord.
Donc, on voit qu'il y a quand même déjà une limite à l'utilisation de cet outil. Et du coup, la deuxième, ça a été donc de lui demander donc le texte précis du jour, qui était le texte de Marc 7, chapitre 7, versets 24 à 30. Et alors, pour rappel, ce texte, c'est Jésus qui se rend à Tyr et qui rencontre une femme qui lui raconte que sa fille est possédée par un esprit impur. Et donc, je lui ai demandé de rédiger, donc à ChatGPT et à Magisterium, de rédiger des homélies. Et je vous ai donc proposé de les lire et de me faire un petit peu aujourd'hui dans cette émission un petit retour sur cette expérience. Est-ce que ça aurait pu être des homélies que vous auriez rédigées ou est-ce que finalement elles sont... elles sont pas un peu vides de sens ou un peu faciles dans leur analyse quoi.
Alors bon là je lis celle de ChatGPT. Bon, a priori je dirais que je ne vois rien de bizarre dans celle de ChatGPT. Bon après. Celle de Magisterium, je ne vois pas non plus forcément, j'allais dire, de choses extrêmement bizarres. Hein. Donc, ces homélies, j'allais dire, dans leur matérialité, ne me semblent pas choquantes. Mmh. Je ne repère rien de curieux. Et c'est tout à fait normal, puisque elles sont faites, j'allais dire, à partir certainement d'un algorithme et base de données qui va piocher. Hein, dans ce que nous avons nous-mêmes, hommes d'église et autres, mis dans les bases de données. Donc finalement, qu'ont fait ces deux intelligences artificielles ? Ben, ils ont fait une compilation logique à partir d'éléments statistiquement un petit peu assurés. Donc globalement, jouant sur les statistiques et à partir de bases qui ont dû être un peu vérifiées au départ, ben, mécaniquement, ils ne peuvent pas dire de bêtises. Donc, très concrètement, ces deux bases de données, reprennent ce que j'ai souvent développé quand on me demandait comment faire une homélie, ou quand on disait attention... Je disais, mais vous savez, moi, on ne me demande pas de prouver que je suis intelligent. On me demande d'aider les gens à se nourrir et à avoir un peu des pistes pour vivre leur foi. Donc, et j'ajoutais, on n'a pas tous les jours l'occasion de faire de la grande cuisine. Mais si on n'a pas le temps de cuisiner ou qu'on ne sait pas cuisiner, ben, vaut mieux offrir une boîte. Et quelque part, ce que vous m'avez montré de ces homélies correspondent plus ou moins à une boîte de conserve, quoi. C'est-à-dire que on a quelque chose qui est forcément un peu désincarné, c'est-à-dire que je ne tiens pas forcément compte directement de la situation de ma communauté qui peut être frappée par un deuil, un drame la veille. Ça peut être une messe pour les enfants, ça peut... Voilà. Les exemples du terrain particulier ne sont peut-être pas là. Mais je n'ai rien à redire dans le cas précis. Hein. Mmh. Simplement, ce que je peux noter, c'est que c'est moi, finalement, qui ai relu ces homélies et qui dit « bah oui, ça me semble cohérent ».
Oui,
ça me semble cohérent. C'est-à-dire que je ne vais pas les relire en me disant « puisque c'est Magisterium ou ChatGPT, bon, les intelligences artificielles qui les ont générées, donc c'est mauvais, parce que c'est pas humain. Ou alors, ah oui, mais attention, c'est passé par des logiciels sérieux, donc c'est forcément bon.
Mais.
Donc, le jugement sur le final, sur l'adaptation de ces homélies à mon public, etc., ben, me revient. Hein? C'est un petit peu... qu'est-ce que je fais, par exemple, lorsque je célèbre ? Par exemple, je vais choisir, en fonction du jour, du public, etc., telle prière eucharistique, etc. Mais c'est quoi ? Ce sont des textes qui me sont fournis, que je n'ai pas générés personnellement, et entre lesquels je choisis en fonction de ce qui me semble opportun. Mais... je dirais que de temps en temps, nous avions dans le temps, ça se fait moins apparemment maintenant, c'est peut-être dommage, il y avait des recueils d'homélies, c'est-à-dire des textes qui avaient été choisis comme étant plus ou moins, adaptés à un certain nombre de situations et que l'on pouvait reprendre directement. Hein. C'était l'intelligence artificielle, dans le cas précis, à mon avis, il ne faut pas lui demander de faire de la recherche théologique. Hein, c'est toujours de la compilation du donné. Bon, donc, alors à partir de là, ça ne va jamais être quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais par contre, ça peut être quelque chose de correct et qui, quelquefois, vaut peut-être mieux, et je le dis clairement, hein, que certaines homélies qui, de fait, ne sont pas structurées parce qu'on n'a pas eu le temps de structurer ça de manière cohérente. Et c'est pas compliqué, hein, on peut faire le test à l'aveugle. Et si vous donnez à l'aveugle une homélie qui n'a pas été travaillée, qui n'a pas été faite de façon structurée et où on se lance dans de grandes considérations, quelquefois très loin du texte, ou avec des interprétations très limites d'un côté, et puis de l'autre côté une homélie créée à partir d'une une compilation de bases de données un petit peu sûre avec un algorithme un peu réfléchi. Vous faites lire les deux à l'aveugle par des paroissiens et puis vous verrez le résultat. Mmh. Parce que le paroissien, lui, il ne se pose pas forcément la question de savoir si ça c'est naturel et si ça c'est artificiel, mais si ça, ça le nourrit ou si ça, c'est immangeable.
Oui, oui. On est plutôt sur le résultat en fait, que le paroissien, lui, va plus attendre le résultat de son homélie plutôt que la méthodologie de la création de l'homélie. Quoi.
Tout à fait, tout à fait. Simplement, il faut se départir de l'idée que artificiel, donc mauvais. Ou au contraire, de l'idée que artificiel est pensé par un ordinateur quantique ou je ne sais pas quoi, donc forcément bon et incontestable.
Voilà. Voilà.
Il faut bien se dire qu'au final, dans ce genre d'exercice que peut constituer une homélie, j'ai obligation de résultat. Hein, et que je ne suis pas un élève à plancher pour montrer de quoi je suis capable. Je suis un pasteur devant nourrir son troupeau, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Justement, sur la question de soit prendre argent comptant ce que va générer une IA ou dire que c'est forcément mal, donc on parle d'une prise de recul et une mesure un peu éthique de l'utilisation justement de cet outil.
Oui.
Quel rôle pourrait avoir justement l'Église et les autorités ecclésiales, en fait, sur une... Alors, on ne va peut-être pas parler de régulation, mais sur l'utilisation de l'IA. Comment, moi, chrétien, ma foi peut me permettre d'utiliser, on va dire, intelligemment cette intelligence artificielle ? Et est-ce que l'Église peut jouer un rôle, justement, au point de vue des autorités, parce qu'en ce moment, justement, beaucoup d'États sont en train de légiférer autour de cette utilisation de l'intelligence artificielle. Comment l'Église, ouais, peut aider nous, les utilisateurs, et les législateurs à essayer de penser une utilisation éthique?
C'est extrêmement compliqué parce que il y a plusieurs problèmes d'origine différente. Bon, d'abord, il y a la question du vrai. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle permet de faire de la retouche vocale, de la retouche photo, etc., pourquoi pas. Mais la question, ça va être celle de l'accès à la réalité. Bon, mais c'est un vieux problème. On sait très bien sur les photos officielles des régimes du régime soviétique à l'époque, vous constatez que sur la photo, hein, donc la photo, elle ment pas, la photo, il n'y a pas tel dignitaire. Et puis si vous retrouvez une autre photo, etc., il a été gommé. C'est-à-dire que on peut le faire maintenant électroniquement. Hein. Mmh. Avant, on le faisait, j'allais dire, avec les méthodes de grand-papa, mais ça revenait au même, c'est-à-dire une altération de la réalité matérielle présentée comme la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez, par intelligence artificielle, amplifier, gommer, modifier des choses, encore faut-il qu'on le sache, parce qu'on peut arriver à me prouver avec des... preuve, entre guillemets, apparemment matérielle, que telle chose a existé, ou que telle chose n'a pas existé, ou que ça ne s'est pas passé comme ça, etc.
Ou même que certains propos ont été tenus. On pourrait
Vous pouvez très bien, demain, on peut parfaitement, je pense, techniquement parlant, si ce n'est pas possible aujourd'hui, ça sera demain, utiliser mon empreinte vocale pour me faire dire que, je sais pas, que Jésus n'a jamais existé. Jacques Versinger, théologien, et voilà. Donc, il y a ce problème du rapport entre ce qui nous est présenté et le réel, la matérialité des choses. Donc ça, c'est une vraie question. Attention, je ne suis pas contre le fait de retoucher une photo. Mais voilà, il ne faut pas lui faire dire
un message qui n'est pas celui qu'elle était au départ. Quoi.
Bah, il y a depuis l'invention de la photographie qu'on a supprimé les boutons d'acné sur les visages des jeunes filles quand vous les photographiez. Et maintenant des garçons, ça ne change rien. On est dans la modification en vue de... Alors, en vue de quoi ? Ça, c'est une vraie question. Mais vous voyez que ça dépasse. Enfin, que c'est beaucoup plus ancien que le problème de ChatGPT.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui revient sur la table, mais en effet, j'y pensais pas forcément. Mais l'exemple de la photo est flagrant.
Voilà.
Et puis, pareil, on peut même remonter plus loin. La peinture, quelqu'un qui peint artiste qui peignait une scène à l'époque, on ne sait pas si. Ce qu'il a peint était réellement ce qu'il voyait.
On ne sait pas. Et puis, c'est le trompe-l'œil. Et effectivement, on est devant quelque chose. Et ce quelque chose, à quoi nous renvoie-t-il ? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est que l'utilisation morale des données, c'est aussi dépend beaucoup de ce que l'on met dans la base de données. Je vais prendre un exemple. À partir du moment où des médecins, prétendant être dans une démarche scientifique, au 19e siècle, avaient calculé que l'intelligence dépendait de ce qu'on appelle l'angle facial. L'intelligence dépend de l'angle facial, donc très bien, parfait. Et éventuellement de la capacité crânienne, ce qui est tout à fait discutable. À partir de ce moment-là, eh bien, vous établissez mécaniquement une hiérarchisation, c'est le racisme, tout simplement, et comme par hasard, l'homme blanc, et un angle facial relativement droit, se trouve plus intelligent. Et donc, vous mettez ça dans une machine, vous secouez un peu et vous découvrez qu'en fait, il est préférable de donner les postes de responsabilité à des hommes blancs, puisque scientifiquement, il est prouvé que, etc. C'est-à-dire que des données qui sont extrêmement contestables vont être, d'une part, érigées en vérité scientifique, pour ensuite mises dans un système qui, lui, va produire à la fin des conclusions qui correspondent aux données qu'on a mises au départ. Et évidemment, vous voyez le problème. Et puisque c'est passé par la machine, plus personne n'est responsable. Hein ? La question, c'est la responsabilité personnelle et de ce que je demande à la machine. Si demain, vous rentrez dans les données d'intelligence artificielle que au-delà de tel pourcentage d'immigration ou de personnes de tel style, etc., la société n'est plus possible. L'intelligence artificielle pourra très bien, entre guillemets, par reconnaissance faciale et blocage aux frontières, expulser automatiquement ou bloquer. Bon. C'est-à-dire que vous avez d'une part ce que l'on met comme critère déterminant dans la machine, et ça c'est une décision politique. Hein. Ensuite, la distinction entre la réalité et ce que peuvent en dire peut-être des scientifiques, et ça c'est un autre problème, et on voit bien sur des communautés scientifiques combien elles peuvent déjà être divisées. Et troisièmement, le caractère automatique, et la machine, elle peut faire de l'automatique parce qu'elle, elle réagit très vite, entre un constat selon tel et tel critère et la sanction. C'est le principe du radar automatique. C'est-à-dire que, grosso modo, il a été établi que si je roule à 111 km/h, eh bien, c'est dangereux parce que c'est potentiellement mortel. Donc, qu'il vente, qu'il pleuve, que ça soit le brouillard, le beau soleil, une route très, très...
très humide.
Une route très, très passante avec beaucoup de circulation, ou pas un chat... je sois pressé pour aller donner un médicament ou que je veuille tester ma nouvelle voiture au mépris de toutes les règles, peu importe, c'est 111, je suis pris et la sanction arrive. Alors, la sanction dans les films de science-fiction, c'est la destruction immédiate du véhicule qui explose. Chez nous, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que l'appréciation morale sur les circonstances, les conditions, les raisons, a disparu.
Ouais.
A disparu, et les conséquences possibles pour la personne, en termes éventuellement de perte d'emploi, pas perte d'emploi, etc., ne sont plus des critères.
Mmh.
Donc, il y a... Alors, vous voyez, là, avec nos bons vieux radars automatiques, on est très, très loin de ChatGPT, mais on est dans des logiques où l'appréciation morale a disparu.
Oui.
Hein ? Ou en tout cas, où elle a été posée au départ, mais par qui ? Vous voyez, le qui, finalement, dans quel processus, a estimé que, quelle que soit la circonstance, le temps, etc., à 111, je suis un danger public, etc. C'est peut-être vrai, je ne conteste pas en soi, hein, sachant que ça a été dit à un moment où les systèmes automobiles étaient encore très différents, etc. Mais... cet exemple, je ne conteste pas les radars, c'est pas le débat. Hein. C'est les caractères un peu automatiques d'une programmation dont nous ne savons pas forcément selon quels critères elle a été établie et si elle est révisable ou pas, et comment elle peut obéir à des critères éthiques autres que celui du comité de spécialistes, voire de la personne qui, seule, un jour, il y a longtemps, a décidé de cela. C'est ce qu'on voit un peu, là encore, dans la science-fiction, mais la science-fiction est souvent de l'anticipation, donc elle a parfois simplement quelques années d'avance sur la réalité, hein, où le génie qui a programmé quelque chose est mort depuis longtemps, et la machine continue à fonctionner et à gouverner, si je puis dire, les existences des gens selon des critères sur lesquels on n'a pas prise et qui sont peut-être, qui n'avaient pas prévu les conséquences possibles de cette mise en œuvre.
Eh ben, mon père, malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je pense qu'on y reviendra dans une prochaine émission sur ce sujet et on complétera, parce que à travers notre discussion, j'ai un peu vu d'autres choses sur lesquelles on pourra parler. Eh ben, du coup, merci mon père pour ces éclairages.
Eh bien, merci Steve, merci de nous écouter, chers auditeurs et auditrices, réels, naturellement.
À très bientôt à tous.